Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver à l'Institut de France sur l'antenne de Canal Académie pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le plaisir d'accueillir le représentant de co-auteur d'un ouvrage collectif, le professeur Pierre Dauques. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous recevoir. Vous venez de faire paraître donc à quatre donc un ouvrage collectif, Pierre Dauques, Francis Fukuyama, Marc Guillaume et Peter Sloterdijk, je prononce bien ?
Non, il vaut mieux prononcer Sloterdijk.
Sloterdijk, très bien, parfait, très bien. Donc vous venez de faire paraître un ouvrage qui porte le titre de « Jour de colère, l'esprit du capitalisme » qui est paru chez Descartes, 160 pages, 17 euros. Et en fait, le cœur de ce sujet, c'est de donner des pistes pour, entre guillemets, sauver l'esprit du capitalisme qui a été écorné par la crise récente. Et encore faut-il savoir de quel esprit parle-t-on. C'est sur ce point que nous reviendrons, parce que votre contribution à vous porte un regard aussi historique, et en particulier sur le bon et sur le mauvais argent.
Oui, tout à fait.
Alors, je vais peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous présenter un peu plus. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lyon 2. Vous êtes chercheur au Centre de recherche Triangle, que vous dirigez peut-être
Non, que vous ne dirigez plus.
Hein. Et je vois que vous êtes aussi à l'École normale sup.
C'est-à-dire c'est un centre de recherche qui regroupe plusieurs équipes, et
donc certaines équipes
de l'École normale supérieure qui abrite l'ensemble de l'équipe de recherche.
D'accord. Alors donc, vous êtes un économiste particulièrement reconnu, qui avait beaucoup publié. Vous êtes membre du Cercle des économistes. Vous avez été longtemps membre du jury du concours d'agrégation. Et vous avez dernièrement, je crois qu'il est paru, publié avec Jean-Hervé Lorenzi, l'actualisation d'un ouvrage dans le cadre du Cercle des économistes qui s'appelle... la crise...
Fin de monde ou sortie de crise.
Fin de monde ou sortie de crise.
Qui va sortir effectivement dans sa collection de poche.
Dans très peu de temps.
Pratiquement.
Sorti.
Non, dans les jours qui viennent.
D'accord, dans les jours qui viennent. Très bien. Voilà. Économiste, professeur d'université et auteur confirmé et multidisciplinaire. Votre ligne de réflexion, vous, c'est plutôt quoi, vos priorités ?
Si je réfléchis à une ligne de réflexion sur une période relativement longue, oui, c'est une réflexion à la fois économique et historique sur l'importance du pouvoir. Et je crois que c'est une dimension que les économistes ont un peu laissée de côté, et que c'est une des faiblesses finalement de la pensée économique, de ne pas avoir appréhendé cette notion. Alors j'ai essayé de la traquer à différents niveaux, y compris dans les comportements de nos hommes d'affaires, qui sont autant à la recherche de gains d'ailleurs que de pouvoir.
On va peut-être y revenir d'ailleurs à travers l'esprit du capitalisme. Alors, un mot simplement sur vos co-auteurs. Bon, Francis Fukuyama est l'auteur de best-seller.
Hein, oui, tout à fait.
Il a fait paraître
un grand philosophe,
un grand sociologue. Il a fait paraître La fin de l'histoire et Le dernier homme. Ça a été un grand best-seller mondial. Votre collègue Marc Guillaume, alors lui, il est plutôt sociologue, si j'ai bien
compris. Il est économiste. Et passionné de
sociologie.
De philosophie aussi.
Et donc, enfin, le philosophe allemand, dont je vous laisse le soin de prononcer le nom.
Peter Sloterdijk est effectivement un très grand philosophe, un des plus impressionnants actuellement.
D'accord. Il évoque les mécanismes de la pyramide de Ponzi, etc. Bien. Alors, je crois qu'on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, à moins que vous vouliez compléter la présentation. Nous allons donc rentrer par votre point d'entrée, le vôtre, hein, puisque vous êtes plutôt préoccupé de l'histoire longue des civilisations et ce qui ressort dans cet ouvrage. Alors, l'esprit du capitalisme, dans la crise, a souffert. C'est d'abord quoi l'esprit du capitalisme pour vous ?
Le terme, évidemment, il faut le rapporter au livre célèbre de Max Weber sur l'esprit du capitalisme, avec une idée qui est aujourd'hui profondément remise en chantier, en question bien sûr, mais qui était géniale, et qui mettait l'accent pour comprendre le développement de ce mode de production, non pas seulement sur les aspects force productive, moyens de production, économie, qui avait été évidemment analysé par Karl Marx, mais l'idée de Max Weber, c'est que les dimensions culturelles, les dimensions d'esprit, je ne dirais pas spirituelles parce que le mot a un autre sens, en français bien sûr, les dimensions d'esprit au sens, en allemand c'est Geist.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est un mot qui est important parce que il se situe à la fois dans une perspective hegélienne et une perspective qui est très, très allemande sur l'esprit du temps, le Zeitgeist. Le Geist, c'est très important dans la conception allemande de la civilisation et de la culture. Et donc, l'idée de Weber, c'est que le développement du capitalisme supposait certaines valeurs, une certaine culture, et toute une série de phénomènes qui se sont trouvés réunis à un moment du temps par l'esprit protestant, calviniste, en Hollande, enfin, voilà. Et cet esprit du capitalisme mettait l'accent, dès le départ, sur un certain nombre de valeurs, de vertus. Et ces vertus, c'est l'effort, c'est le travail, c'est la récompense de l'effort et du travail dans un revenu qui peut être élevé mais équilibré par rapport aux autres revenus. C'est
ce lien alors avec la spiritualité en quelque sorte, enfin avec une certaine façon de penser plutôt calviniste protestante, il s'est donc délité dans la période récente. Alors c'est exclusivement la période récente ou c'est une longue dérive qui
il a pris plusieurs formes. Il a pris plusieurs formes depuis son émergence dans ce petit bout d'Europe hollandaise, calviniste, jusqu'à son grand développement au 19e siècle et au 20e siècle et encore de nos jours. Donc les formes prises par l'esprit du capitalisme ont beaucoup varié. On a quitté l'éthique protestante, même si le protestantisme a continué à jouer un rôle très très important dans l'animation même du capitalisme par ses valeurs. Ça, c'est très net que les grands pays capitalistes ont tous été, d'une certaine façon, marqués par le protestantisme. Et c'est un point qui compte. Alors évidemment, l'évolution a été considérable et ce qui a le plus changé peut-être au cours du temps, c'est la prise en compte d'une part du risque, de l'assomption du risque, et cela lié à l'idée d'innovation. Bon, l'esprit du capitalisme a été lié très profondément à cet esprit d'innovation et d'assomption du risque pour innover dans une perspective où dans le long terme, l'effort fait aujourd'hui, le travail réalisé aujourd'hui devait être situé dans une perspective de progrès technique, de développement des capacités de l'humanité et finalement de montée du pouvoir d'achat et du bonheur de tous.
Je vous lis, c'est tout à fait ça, à la page 123, dans le chapitre qui s'appelle « Et maintenant, point d'interrogation, une crise de l'esprit ». Mais l'ancien esprit progressiste, innovateur, semble avoir perdu une partie de son souffle, et ce n'est pas sans conséquence morale.
C'est un des aspects, effectivement, que je considère comme important. Il y en a deux qui me semblent vraiment essentiels. Il y a d'abord le fait que pendant longtemps, effectivement, le capitalisme avait partie liée avec l'innovation. Et l'innovation apparaissait comme le moyen fondamental d'accéder à un autre monde demain et qui serait un monde meilleur en quelque sorte, en tout cas où chacun aurait la possibilité de bénéficier des avantages de l'innovation. Or ça, c'est remis en cause à notre époque. Il suffit de penser à la dimension prudentielle que l'innovation prend aujourd'hui et cet état d'esprit qui a été celui du 19e et du 20e siècle est très fortement écorné, profondément, en ce sens qu'on ne croit plus à cette possibilité prométhéenne de changer la vie des hommes par l'innovation. Et l'autre aspect qui est très écorné également, c'est l'idée que les risques assumés par certains leur permettaient d'obtenir des rémunérations en conséquence. Et c'était relativement bien accepté dans la mesure où ces risques étaient liés soit à l'innovation, soit des rémunérations qui apparaissaient comme légitimes dans la mesure où elles apparaissaient comme une partie, une fraction du bénéfice social de l'activité D'accord. de l'individu. Celui qui réussissait et qui était dès lors largement bien rémunéré parce qu'il avait pris lui-même des risques et parce qu'il avait réussi et en réussissant, il avait élevé
Le
niveau général, pas seulement le PIB, mais aussi la satisfaction de chacun, eh bien, on pouvait considérer que sa rémunération, même élevée, était légitime. Or, aujourd'hui, clairement, de nombreuses rémunérations apparaissent comme étant excessivement élevées. Non seulement elles ne participent en rien à l'élévation du niveau de richesse générale, du PIB, encore moins du niveau de bonheur général, mais au contraire même, ces rémunérations apparaissent comme...
Une forme d'appropriation
D'appropriation dans une situation où ceux qui réussissent à s'attribuer ces rémunérations le font ou apparaissent comme le faisant au détriment des autres. Il n'y a pas de gain sur la nature. Il n'y a pas de montée générale du fait de l'effort ou des uns ou des autres. Non, ce sont des rémunérations qui apparaissent, selon un mot qui est souvent repris, comme parasitaires. Et elles parasitent le système. Et c'est pour ça qu'elles sont finalement une atteinte à l'esprit du capitalisme, parce qu'elles risquent de remettre profondément en question le lien social, fondamentalement.
Et les règles du jeu, en quelque sorte.
Et l'ancienne règle du jeu.
Alors là, on arrive justement sur le terrain de la morale, parce que c'est ce qui permet de faire dire à de nombreux acteurs et observateurs que le capitalisme n'a pas de morale. D'ailleurs, des philosophes bien connus, André Comte-Sponville en tête, considèrent que le capitalisme n'a pas de morale, est amoral, plus exactement. Et donc, vous dites qu'il n'est pas dépourvu de morale.
Oui.
Et vous inscrivez un petit peu en faux contre cette pensée.
Alors, pas un petit peu, même franchement, parce que c'est une conception facile, en quelque sorte, de dire le capitalisme est immoral ou amoral, selon les uns. Amoral, c'est le mot qu'on emploie, et qui n'a pas besoin de morale, et plutôt qu'il n'a pas d'autre morale.
Qu'il n'est pas dans l'ordre moral, en quelque sorte.
Oui, mais c'est ça, qu'il n'est pas dans l'ordre moral, et donc que sa seule morale serait l'efficacité.
C'est ça.
Oui, c'est ça. En réalité, il y a deux aspects qui sont très importants et que les économistes ont souvent mis en valeur. En particulier récemment, grâce à la théorie des jeux, on s'aperçoit qu'il est absolument indispensable d'avoir ces règles du jeu implicites ou explicites, c'est-à-dire ces institutions spontanées, et qui font que les participants à ces jeux ont besoin de la réputation, qui est vraiment un capital social très important. Ils ont besoin de la confiance des autres et d'inspirer confiance aux autres. L'honnêteté dans les affaires apparaît aussi comme de la morale utilitaire. Il s'agit de pouvoir participer, en quelque sorte, à du travail en commun. Et tout ça tout ça, c'est des formes de morale. Et on peut considérer que ce sont les pays où, pour des raisons souvent anciennes, liées à l'histoire, liées aux religions, liées aux valeurs acquises par le passé, ce sont les pays qui ont le plus de morale, qui ont ces valeurs individuelles et collectives, qui ont le mieux réussi dans le développement, qui sont partis les premiers, qui aujourd'hui encore sont en tête. Dans le chapitre de Francis Fukuyama, il montre bien que les entreprises qui réussissent le mieux sont souvent celles qui réussissent à créer un esprit d'entreprise, mais au sens fort là aussi, et où des solidarités se créent, où la confiance règne. Il ne faut pas imaginer l'entreprise comme un monde sauvage, de concurrence interne violente, même si ça existe, évidemment. Il y a l'autre aspect qui est un aspect de coopération, et cette coopération, ça suppose des règles, des valeurs, et c'est très important. De même, la lutte contre la corruption. On voit bien les pays qui ont le mieux réussi dans la lutte contre la corruption. C'est souvent des pays qui possèdent un système de valeurs morales. Et ce sont des pays dont le capitalisme, où le capitalisme s'est développé avec une particulière efficacité en s'appuyant sur ces éléments de morale utilitaire et pas seulement.
Tout à fait. Puisque vous parliez de Francis Fukuyama, donc je dis en synthèse ce qu'est sa contribution. Et donc, il souligne l'importance des facteurs culturels et souligne que l'économie n'est pas une fin en soi, mais doit s'insérer dans l'existence sociale, ce que vous avez développé en ouvrant cette parenthèse. Alors, on va maintenant prendre quelques petits flashs. Oui. Déjà, on voit bien, là, à la fois les économistes, les philosophes se retrouveront dans ce que vous venez de développer et surtout trouveront des développements beaucoup plus complets, et notamment sur le plan historique, qui sont extrêmement intéressants sur cette évolution de l'esprit du capitalisme dans cet ouvrage. On va peut-être quand même dire un mot du diagnostic, c'est-à-dire comment on est arrivé dans cette... Enfin, en tout cas, vous, quels sont les facteurs que vous recensez comme étant ceux qui ont fait émerger cette crise en liaison avec, bien sûr, l'esprit du capitalisme et puis les jours de colère que cette crise a déclenché.
Oui. Oui, c'est vrai que le titre « Jours de colère » est en lui-même révélateur d'une période. Donc, finalement, il y a vraiment deux questions.
C'est pour ça que je disais dans un papier que j'ai fait sur votre ouvrage que c'était un essai de mousquetaire, d'abord parce que vous êtes quatre mousquetaires, et qu'en plus vous préférez, on va dire, l'épée au fleuret moucheté. Mais bon,
si vous voulez.
Me semble-t'il.
Bon. Le drame qui s'est noué avec le capitalisme financier n'est pas dû simplement à des comportements individuels. Il ne s'agit pas de dire tel ou tel, il ne s'agit pas de mettre l'accent sur le fait que beaucoup d'hommes sont pris par ces péchés capitaux que sont l'avidité, etc. Ouais. C'est un système qui s'est mis en place, un système que j'appelle un système d'avidité. Et Marc Guillaume met bien l'accent dans son chapitre sur les deux mots qui en anglais sont « greed and fear », l'avidité, la cupidité et la peur. On est dans des systèmes où les deux, avidité et peur, sont très profondément liés, articulés. Donc, il ne s'agit pas de penser qu'un individu particulier, même un Madoff peut être désigné, que soit comme un bouc émissaire, soit comme quelqu'un de pas bien. Bon, c'est le cas, bien entendu.
La tendance quand même à désigner des boucs émissaires dans cette crise, et d'ailleurs dans chaque crise.
Dans chaque crise.
C'est quand même bien révélateur d'une certaine lâcheté collective qui évite...
C'est pratique, oui.
C'est pratique. Hein,
Mais c'est le système.
Voilà. Politique. Oui,
bon. C'est le système qui est très caractéristique. Un système d'avidité, ça veut dire que finalement, chacun ne trouve son positionnement social que dans la mesure où il peut imposer aux autres et se montrer comme étant le plus cupide. C'est ça qui est extraordinaire dans ce retournement des valeurs, c'est qu'être greedy, finalement, ça apparaît comme quelque chose de positif.
C'est ce que vous écrivez dans la page 126. L'avidité était devenue un système au point que n'être pas assez greedy était devenu un défaut pour les membres de l'élite capitaliste et que l'hybris passait pour une qualité. Au sein de, cercles, de ces cercles étroits, chacun offrait aux autres les moyens de son enrichissement à charge de revanche.
Oui. Et dans cette phrase, si vous le permettez, il y a un mot qui est très important et qui revient dans tous les articles, dans tous les passages ou les chapitres de ce livre. C'est le mot « démesure ». Le mot « démesure » est très, très important. Le système, en quelque sorte, devient fou. Et l'hubris devient la caractéristique même de nos systèmes. Et le drame, c'est que ça a provoqué cette crise financière, comme on pouvait s'y attendre, comme on s'y attendait. Et qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ça peut tout à fait repartir. On est nouveau dans une situation où les bonus repartent, où les banques recommencent à se livrer à des activités de haute spéculation. Tout est reparti comme avant, en quelque sorte. À Londres, on retrouve les folies des traders de 2007. Et c'est très inquiétant parce que on espérait que la crise aurait assagi, en quelque sorte, le monde, ce monde financier devenu démesuré ou pris par l'hubris. Or, il semble bien que non. Alors, qu'est-ce qu'il faudra pour...
Voilà,
alors
ça, c'est la vous anticipez sur la question.
Eh bien, je pense que ce qu'il faudra, c'est que cette crise que nous connaissons, je pense qu'elle est beaucoup plus durable que cela. Si les activités financières ont repris comme avant, en réalité, on a toutes les chances de traîner ce boulet de la crise et de la stagnation pendant quelques années. Et il faudra quelques années pour que les hommes s'adaptent, reprennent les voies d'une régulation et apprennent les voies d'une régulation mondiale.
C'est ça. Alors ça, c'est le grand enjeu qui commence ou qui continue à Pittsburgh à la fin
Absolument.
Du mois. On a d'ailleurs été assez surpris, enfin en tout cas en tant qu'observateur, c'est la réflexion que je me faisais, par quand même cette capacité européenne à se mettre d'accord devant le volontarisme, je dirais, de notre président pour présenter une offre, en quelque sorte, de régulation commune aux Américains. Mais il me semble, je voudrais bien vous voir réagir sur ce point, que néanmoins, on ne peut pas faire d'anticipation, espérons que les choses vont avancer, mais il y a quand même des philosophies qui sont complètement différentes entre les anglo-saxons et, je veux dire, les Européens, puisque d'un côté, les anglo-saxons s'en remettent à la légitimité du capital et à la détention du capital, et donc soumettent toute réglementation, en tout cas une large partie de la réglementation, aux droits liés à la propriété. Donc les actionnaires, ce sont les actionnaires qui sont censés, etc. Alors qu'au niveau, on va dire, européen, on voit bien que c'est le tout-État qui est en train de réapparaître et où on pense que la force régalienne est privilégiée par rapport à des capitalistes qui sont incapables de s'auto-réguler. Alors je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus.
Il y a une différence, effectivement, une différence très importante, là on le voit pour Pittsburgh, entre les positions des Anglais et des Américains d'un côté, des Anglo-Saxons, et de l'autre, les continentaux. Bon, cette opposition, elle est très nette. Elle se comprend du côté des Anglais, tout simplement parce que c'est la plus grande place financière du monde.
Donc, ils ont aucun intérêt.
Et puis c'est une place totalement dérégulée. Ouais. Et donc, ils jouent cette carte. Il faut bien comprendre que, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, c'est près de 30% des emplois qui tournent autour de la finance. Et on n'en est pas du tout là, ni en France, ni en Allemagne.
4,
donc, ils défendent leur beefsteak de ce côté-là. Quant aux États-Unis, c'est plus compliqué. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un pays au passé régulateur fort. Et actuellement, on voit bien qu'Obama est tenté de... Mais malheureusement, c'est moi qui dis malheureusement, il rencontre, semble-t-il, pas mal de difficultés à réussir à transformer les choses. Quant à la place de l'État, il faut être nuancé. On peut dire que la crise financière ayant été et bancaire ayant été particulièrement forte aux États-Unis et en Angleterre, c'est là où l'État est intervenu le plus directement, le plus fortement, et sans hypocrisie, c'est-à-dire qu'en devenant effectivement propriétaire. En France, on a plutôt tourné autour du pot devant la nationalisation des établissements. Donc je dirais que...
Mais est-ce qu'elle était justifiée, cette nationalisation ?
À mon sens, elle l'était plus dans les pays anglo-saxons.
Tout à fait, parce que...
Qu'en Europe...
Les banques françaises ont été d'abord des victimes collatérales. Et leur situation...
Ça, je dirais pas. Non, j'ai pas cette impression.
Non, vous avez
elles
pas
ont participé tranquillement au jeu mondial. Quand je dis tranquillement, elles ont été prises comme les autres... Dans cette folie, dans cette démesure. Et on ne va pas citer de nom, mais c'est allé très loin. Donc je ne pense pas du tout que les banques françaises puissent tirer leur épingle de ce jeu qui a été un jeu tragique et qu'elles sont en train de reprendre. Non, loin de là, loin de là.
Donc vous pensez qu'en fait, on ne sait pas tout alors ?
Et je pense que en France, on a été relativement modeste par rapport à ce que faisaient les Anglais ou les Américains. Alors qu'on a l'impression, du contraire, on a l'impression, ça tient beaucoup au discours qui est tenu en France, on a l'impression que l'État, effectivement, reviendrait plus en force en France ou en Allemagne qu'en Angleterre ou aux États-Unis, alors que c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et on voit aussi par l'importance des plans de relance. Les plans de relance étatiques ont été massifs aux États-Unis, y compris par le sauvetage des banques, bien sûr, qui est le plus gros morceau, mais aussi par le soutien
à l'économie,
à l'automobile en particulier. En France, on a un plan de relance, oui, mais il est relativement modeste.
Mais on va voir le grand emprunt.
Le grand emprunt, on va voir ce que c'est que ce grand emprunt. On ne sait rien de ce grand emprunt. Peut-être sera-t-il un petit emprunt et peut-être ne passera-t-il même pas par les ménages. Ouais. Donc ça aurait été, beaucoup de bruit pour rien, je ne sais pas.
Ça aurait été quand même un grand moment de réflexion parce que quand même, pour une fois, on a inversé, me semble-t-il, le processus, c'est-à-dire en commençant par se dire où on doit mettre l'argent avant de faire l'emprunt et ensuite de saupoudrer.
Oui.
Un peu.
Pour dire s'intéresser une minute à cette question, ce qui est plus intéressant dans ce grand emprunt, comme c'est souvent le cas dans des situations de même type, c'est surtout que ça va permettre d'éponger les liquidités en excès. Il y a beaucoup de ménages qui se trouvent à avoir des liquidités qui tiennent tout simplement au fait qu'ils ont été amenés à vendre, par exemple, un immeuble, qu'ils ne savent pas très bien qu'en faire dans la situation actuelle. Ils n'ont pas la possibilité d'investir directement parce que l'investissement privé est très fortement touché. On a peur, tout simplement, de l'avenir. Alors, l'État a la possibilité de ponctionner ce surplus de liquidité qui n'ose pas assumer le risque de l'investissement et de jouer en quelque sorte le rôle de l'investisseur. Maintenant, pour trouver quels sont les secteurs où il faut investir, c'est pas toujours très très simple. Et
enfin, en tout cas, une commission est musclée et est en train de réfléchir sur ce sujet.
Est-ce que les commissions musclées peuvent remplacer le marché Et souvent, les entrepreneurs savent mieux eux-mêmes
ce qu'il faut faire.
Seulement, le problème, c'est qu'ils le sauraient, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont peur. Oui. Ils ont peur de l'avenir. On ne va pas investir. Qui va investir aujourd'hui dans des grands projets qui sont à la fois risqués, aventureux, des ventures, comme disent les Anglais. Et il faut donc que l'État ponctionne ces liquidités qui risquent d'être non seulement stériles, mais de constituer des bulles dangereuses. Et ce n'est pas une mauvaise idée, c'est une idée assez classique finalement. Le problème, c'est qu'il faut faire un emprunt qui coûtera relativement cher.
Plus cher que sur les marchés.
Oui,
de façon à créer une dynamique.
Ça, c'est des aspects techniques.
Tout à fait.
Enfin, il y a un aspect politique aussi là-dedans, nous ne le cachons pas, évidemment.
Monsieur le professeur, je vous ai entraîné sur des terrains qui dépassent un peu votre ouvrage, quoique, à quelque part, la réflexion centrale rejoint ces différents
thèmes. Oui, tout à fait. Oui, oui, cet ouvrage, effectivement, est un élément dans un ensemble de réflexions.
Pour conclure, je vais vous citer ce que vous dites à la fin d'un de vos chapitres, qui remettra dans le ton, qui redonnera le ton de votre ouvrage, enfin en tout cas pour votre contribution. Ce que nous nommons justice sociale est évidemment un concept flou, relatif, forcément puisqu'il est cette mise en commun de sentiments sociaux qui fait la cité et qui est donc spécifique à chaque cité. Que ce sentiment collectif soit mis à mal par certains, par ce système d'avidité, ne pose pas seulement un problème de justice communicative et distributive, il pose la question de la solidité du lien politique. Voilà, donc j'invite nos auditeurs à retrouver très rapidement cet ouvrage absolument remarquable, qui est donc coécrit par quatre personnalités, Pierre Dauques, Francis Fukuyama, Marc Guillaume et Peter Soterlight, qui est donc paru chez Descartes et compagnie, 160 pages, 17 euros, un ouvrage absolument remarquable à se procurer le plus rapidement possible. Merci à vous, monsieur le professeur, et à bientôt pour d'autres rendez-vous.
Merci à vous, j'étais vraiment ravi de pouvoir discuter.
Merci.